France Inter, Nicolas Demorand. Le 7-9.
120 battements par minute, film magnifique qui sort mercredi et qui revient sur le combat d'ACT UP Paris dans la lutte contre le sida. Robin Campillo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au micro d'Inter. Bravo pour ce film. Vous en êtes le réalisateur. Vous avez connu ACT UP Paris comme militant. Et bonjour Elisabeth Lebovici.
Bonjour.
Historienne, critique d'art, ancienne militante d'ACT UP aussi. Ce que le sida m'a fait, art et activisme à la fin du 20e siècle. Édition JRP Ringier. Première question pour vous. Robin Campillon, pourquoi 2017 revenir sur ce moment militant qui est un moment de votre vie aussi?
Je sais pas pourquoi. Ça fait très très longtemps. J'ai voulu faire un film sur le sida dès les premières images que j'ai vues des malades dans les journaux, dont ces images de Paris Match que j'ai mises dans le film. Et ces images, elles ont imposé à moi une espèce de représentation que je n'aimais pas. Et c'est arrivé à l'époque où je commençais mes études de cinéma. Je rentrais à l'IDEC où j'ai rencontré Laurent Cantet. Et d'un seul coup, le cinéma que j'essayais de commencer à faire et me semblait ne pas correspondre à ces images qui d'un seul coup s'imposaient à nous, cette épidémie qui paraissait gravissime et qui allait toucher, dont on disait qu'elle allait tuer beaucoup d'homosexuels, d'hémophiles, etc. Et donc voilà, c'est parti sans doute de là, mais ça a mis un temps infini parce que je suis passé par ACT UP en 92 et c'est après, au bout d'un moment, il y a 10 ans à peu près, que je me suis dit que ce que je voulais raconter, c'était pas les 10 premières années de l'épidémie où on était un peu seul, chacun dans son coin, un peu anesthésié par cette épidémie qui est en train de se dérouler, absommé par ça. Mais le moment où on a repris de la force collectivement, et donc je me suis aperçu relativement récemment que c'est ça que je voulais raconter.
Avant de poser la même question à Elisabeth Lebovici, quel souvenir vous gardez ces années de militantisme? Souvenir, sensation, image, bruit, son, je sais pas.
Tout est un peu dans le film en fait, oui. En réalité. Mais ce que je me souviens très très fort de la première réunion à laquelle j'assiste. Et je crois que tout le monde, Elisabeth, c'est pareil. La première réunion à laquelle on assiste, c'était un choc. C'était une très longue réunion de 4 heures à peu près. Et moi, j'ai été suffoqué par le côté jubilatoire de la réunion et le côté en même temps harassant. De la réunion. On en parlait avec Didier Lestrade récemment.
Le fondateur.
Le fondateur et qui a été le premier président et pour qui, lui, les réunions étaient très, très lourdes à vivre. Et donc, voilà.
Il s'y passait quoi, Elisabeth Lebovici, dans ces réunions harassantes?
Dans ces réunions harassantes, il y avait aussi tout un matériau qui était apporté parce qu'on arrivait. D'abord, on vous expliquait ce que c'est. La première réunion, on vous brief. Donc, on vous dit, ACT UP Paris est une association issue de la communauté homosexuelle. Donc là, première jubilation. Waouh! Ça y est! On est là, hein, c'est formidable. Bon, et puis après, tout d'un coup, on met à votre disposition une énorme revue de presse. Donc déjà, il y a un matériau, il y a des photocopies, il y a des choses à lire. Et ça, j'ai trouvé ça aussi extraordinaire. Et puis la rapidité des interventions des gens, c'était sec, c'était très drôle. Et en même temps, ça allait droit au but. C'est sidérant. C'est vraiment extraordinaire. C'est fulgurant.
Et puis, on ne comprenait pas tout.
Ah, on comprend rien.
La première réunion.
Rien.
Moi, j'ai compris.
C'est-à-dire pourquoi, Robin Campillo?
Par exemple, moi, j'ai compris ce que j'ai mis un peu dans le film. Il y avait une femme qui s'appelait Joëlle Boucher, dont le fils hémophile était séropositif, Ludo. Et j'ai mis l'anecdote dans le film. Elle parlait du fait qu'il fallait faire une action assez vite contre un laboratoire parce qu'en fait, son fils fabriquait du faux sang. Et que le faux sang était dans la baignoire et qu'elle ne pouvait pas prendre de douche tant que l'action n'était pas faite. Et j'ai mis un temps à comprendre qui était cette femme, que c'était son fils qui était hémophile et séropositif, qui fabriquait le faux sang. Et il y a un truc presque délirant dans cette chose-là. Et c'est vrai que tous ces enjeux, par rapport au laboratoire pharmaceutique, etc., qui étaient assez précis, assez sophistiqués, on se prenait tout ça dans la tête, sans pouvoir les analyser complètement. Et j'ai essayé de garder cette impression de désorientation pour le spectateur dans la salle de cinéma.
Quelle était la place de la colère, Elisabeth Lebovici, dans ce moment militant?
Alors, écoutez, c'est ce qui suit l'espèce de sidération dans laquelle, je crois, on a tous été, en tout cas cette génération qui avons pris le sida de plein fouet au début des années 80. Il y a eu 10 ans de totale anesthésie, la sidération. Bon, la sidération, c'était aussi qu'autour de nous, les gens mouraient, il fallait, s'occuper d'eux, aller les voir, leur faire à manger, etc. Bon. Mais le truc, c'était d'abord une espèce d'anesthésie totale, une sidération, on ne comprend rien, on ne comprend pas ce qui se passe, on est complètement amorphe. Et puis, tout d'un coup, lentement, cette sidération fait place à la colère, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a quelque chose d'insupportable, et l'invisibilité dans laquelle tout ce qui se passe autour de nous est placé, ça rend extrêmement énervé. Dans une grosse colère. Et
puis, quelles sont les cibles de cette colère ?
Les cibles, elles sont liées. Campio. Elles sont d'abord liées à cette sidération, mais aussi à cette peur. Moi, j'ai très très peur. Et j'ai très peur de, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si je peux transmettre, si je peux être contaminé, je ne sais pas où j'en suis pendant très longtemps. Et parce qu'il n'y a pas de test au début, etc. Et surtout, la colère, elle vient justement du fait qu'il y a des représentations qui stigmatisent un certain nombre de la population. Au début, on parlait des 4H, homosexuels, hémophiles, haïtiens et héroïnomanes. Ça a été le premier. Et donc, on parle de ces gens, mais il n'y a aucune campagne de prévention qui s'adresse à eux. Et donc, il y a une invisibilisation des gens les plus touchés par cette épidémie. Il y a une vague campagne fin 80, je crois, enfin, ou 86, 87, très généraliste. Et en fait, quand nous, on vit le fait qu'un ancien copain meurt, un ancien amant meurt, etc., et que donc tout ça reste, qu'on n'est même pas invité à l'enterrement, que d'un seul coup, nos biographies, nos histoires personnelles n'ont pas le droit de citer, n'ont pas de visibilité, d'un seul coup, la colère monte. Et c'était vraiment très, très fort.
Elisabeth Lebovici.
Oui, pour répondre à votre première question, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que moi, je me suis aperçue qu'il y avait des parties de mon histoire que je ne pouvais plus raconter à personne. Parce que les amis avec qui j'avais partagé cette histoire n'étaient plus là. Et donc, j'ai décidé d'écrire ce livre parce que je ne pouvais plus la raconter à qui que ce soit d'autre qu'à un livre et effectivement à des lectrices et des lecteurs d'une autre génération qui pourraient, elles aussi, eux aussi, comprendre. Bon, voilà. Je crois que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Donc, c'est pour en revenir à cette colère. Et l'histoire l'histoire que je raconte dans ce livre, c'est effectivement comment des militants sont allés puiser dans des savoir-faire, qui étaient des savoir-faire artistiques, graphisme, l'art, la performance, le théâtre, plein d'autres choses, et bien, de quoi donner visibilité, parce que à des gens, des corps qui étaient complètement invisibilisés. C'est ça, l'histoire.
On voulait changer le système de représentation de cette maladie. Et donc, c'était non seulement on produisait des affiches, on produisait des slogans, etc., mais on se produisait nous-mêmes, manifestait nous-mêmes d'un seul coup. La sortie du placard, mais en tant qu'homosexuel, mais en tant que malade ou séropositif, était énorme. Et c'est vrai que dans le film, j'ai essayé de retracer cet enjeu-là qui est très fort entre des militants qui sont dans une lutte encore plus incarnée que d'autres, qui s'habillent aussi en pom-pom girls et qui font la fête à la Gay Pride, mais qui sans arrêt se représentent eux-mêmes en tant que malades séropositifs et aussi PD.
Une dernière question avant la revue de presse, mais on aura le temps d'en reparler. C'était un mouvement dur, rude, radical, un mouvement dissident, hétérodoxe. Ça vous étonne que 30 ans après, il y ait une espèce de réécriture people de ce qu'est l'histoire d'ACT UP ?
Oui,
Robin Campillo d'un mot.
Oui, ça m'étonne un peu quand même, mais je dois dire, mais c'est vrai qu'à la fois à l'époque, moi j'avais l'impression que on était assez mal vu et que curieusement on était assez populaire. Il y a une espèce de paradoxe déjà à l'époque où les gens, il y avait une espèce de feuilleton sur ce qui se faisait, les actions, etc., qui était très très fort. C'est vrai que nous, quand on a cherché à financer un film, parce que le cinéma c'est cher, et quand on a dit ACT UP, ça a ouvert des portes plutôt que ça n'en a fermé.
Allez, on y revient en détail avec vous deux, Robin Campillo. Robin Campillo, oui, pardon, Elisabeth Lebovici, vous êtes avec nous jusqu'à 9h. Vos appels, amis auditeurs d'Inter, au 01 45 24 7000. Il est 8h30.